au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis, bonjour, heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Academy à l'Institut de France pour un nouveau Au fil des pages qui nous donne le plaisir d'accueillir Jean-Pierre Paget qui vient de faire paraître aux éditions Autrement, Frontières, Penser l'après-crise, tout est à reconstruire. Jean-Pierre Paget, votre ouvrage a été préfacé par Christian de Boissieu. Bonjour à vous, heureux de vous recevoir à Canal Academy.
Très heureux aussi.
Bien, je vais vous présenter très brièvement avant de rentrer dans le vif du sujet. Vous avez eu une carrière internationale et aussi vous avez notamment à un moment donné travaillé au plan, ce qui vous donne une vision d'expérience dans le domaine économique. Et vous présidez un bureau d'études, si mes souvenirs sont bons.
Ouais,
vous
non, c'est-à-dire d'études. Que je co-préside d'ailleurs un cercle de pensée.
C'est ça, c'est le cercle de pensée.
Un cercle de pensée qui est le cercle Condorcet de Paris.
D'accord, ah oui, que l'on connaît, que l'on connaît très bien.
Et d'autre part, je suis correspondant scientifique au CERI, le laboratoire de recherche de Sciences Po, où je suis rédacteur en chef d'un tableau de bord des pays d'Europe centrale et orientale. Voilà.
D'accord. Vous avez fait paraître d'autres ouvrages précédemment ou simplement, je crois, des notes de réflexion ?
Non, j'ai fait paraître un autre ouvrage avec nous l'avons fait paraître à deux, avec un jeune collègue qui s'appelle Julien Vercueil, et c'était « De la chute du mur à la nouvelle Europe, économie politique d'une métamorphose ».
Mais il me semble qu'un de vos maîtres à penser est Immanuel Wallerstein, enseignant à Yale, pour qui le capitalisme touche à sa fin. Est-ce que c'est bien le cas ?
Mais, maître à penser, c'est beaucoup dire. je ne me présenterai pas en disciple d'Immanuel Wallerstein. Je suis intéressé par ses écrits et je suis intéressé notamment par cette prophétie selon laquelle le capitalisme touche à chacun et on va aborder un autre système historique. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Je pense que c'est une opinion qu'il faut prendre en considération, même si, comme Christian de Boissieu, que je connais bien, qui est préfacier de ce livre, a marqué dans la préface les distances qu'il prend par rapport à cette vue des choses.
Absolument, c'est ce que j'avais cru comprendre.
Oui.
Bien, alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet, après cette introduction. Alors, vous dites tout est à reconstruire. Donc, ça veut dire que tout est à jeter ?
Non. Je vous ferai remarquer que... Non, mais j'ai fait un parallèle avec ce qui s'est passé au colloque Repenser la finance, où Nicolas Vavrez a dit que tout était derrière nous.
Oui, d'accord.
Remarquerez. Ouais. Alors après, les autres n'ont pas dit la même chose. Mais
alors,
enfin...
je précise pour nos auditeurs que ce colloque qui était organisé conjointement par le Cercle des Échos et le Cercle Turgot portait sur la parution, là pour le coup, de l'ouvrage du Cercle Turgot qui s'appelait « Repenser la planète finance ». Et regard croisé sur la crise financière et dans laquelle sont intervenus nombre d'économistes et d'éminentes personnalités du monde économique et financier, hein, pour resituer. Et donc,
voilà.
Dont Nicolas Vavrez, économiste, polémiste et chroniqueur bien connu, qui reprenait les termes que vous venez d'indiquer.
Enfin, moi, j'ai dit tout est à reconstruire. Non, c'est-à-dire, non, il y a quand même, si vous voulez, quelque chose d'important dans tout cela. C'est que je pense que contrairement à beaucoup d'analystes, nous ne sommes pas devant une crise économique et financière d'une gravité extrême particulière, mais une crise économique et financière qui viendrait après une série d'autres, qui serait beaucoup plus grave que les autres, mais qui appellerait quand même une solution moyennant des régulations, moyennant un certain nombre de correctifs. Moi, je pense que nous vivons une crise systémique. Et une crise systémique qui oblige à repenser le fonctionnement de la société planétaire. C'est pour ça que le titre qu'a choisi l'éditeur, Tout est à reconstruire, moi j'ai surtout choisi Penser l'après-crise, mais c'est pour ça que j'ai accepté le titre Tout est à reconstruire, parce que je crois que tout est à reconstruire, et si nous ne le reconstruisons pas, je crains que nous sortions très mal de la crise.
Alors pour vous, vous prenez une posture qui est très claire. Vous dites la thèse néolibérale érigée en pensée unique n'est pas à la hauteur des réponses nécessaires. Le marché n'est pas la panacée. Et quand le capitalisme perd la tête, il annonce aussi son déclin. Donc ce n'est pas tout à fait du Wallerstein, mais ça n'est pas très loin quand même.
Oui, enfin, ça, je ne sais pas si c'est tout à fait de moi. Là,
oui, enfin, en tout cas, c'est la retranscription que j'ai pu en faire, mais en synthèse. Oui, ce n'est pas du mot à mot. Hein.
Tout à fait. Alors, ça, vous avez raison. Bon, sur le capitalisme, je pense que c'est une crise du capitalisme. C'est une crise du mode de fonctionnement de la société. La société a fonctionné selon le système capitaliste. C'est une crise du capitalisme. Et je me permettrai simplement de rappeler que le capitalisme a déjà connu une crise d'une gravité aussi extrême en 1929 et au cours des années 30. Et que c'est d'ailleurs cette crise qui a fait l'objet d'un livre très intéressant de Karl Polanyi, La Grande Transformation, où il montre que, d'abord, qu'elle était née de causes que l'on peut rapprocher des causes de la crise actuelle, premièrement, et deuxièmement, il montre que cette crise a obligé justement un mode de fonctionnement de la société, pour le meilleur et pour le pire, parce que lui, il n'hésite pas à établir une filiation entre la montée du fascisme, du nazisme, et le désarroi qu'a créé cette crise. Et si on va plus loin dans l'analyse, on se rend compte qu'après la Seconde Guerre mondiale, tenant compte de tout ce qui avait été fait, ce qui s'était passé, le capitalisme a connu une période régulée, beaucoup plus heureuse, on appelait ça en France et dans d'autres pays les 30 glorieuses, où, avec effectivement la mise en place d'un État-providence, du système de protection sociale, etc., qui semble avoir très bien marché, et en tout cas qui ont bénéficié beaucoup à la France, puisque la France a connu à la fois le plein emploi et une croissance forte au cours de cette période. Alors, moi, la thèse que je développe dans ce livre, c'est qu'à partir des années 70, à partir de la crise du pétrole, à partir de l'abandon de la parité de dollar-or par les États-Unis, tout ceci a commencé à se dérégler complètement, et sous l'inspiration aussi de libéraux, notamment de l'école de Chicago, c'est un processus qui s'est mis en place de dérive du capitalisme. Et dérive du capitalisme qui a été d'ailleurs mise en pratique par deux personnages illustres, Margaret Thatcher et Ronald Reagan, que je n'hésiterai pas à appeler les mauvais génies, qui sont pour une grande part responsables de ce qui se passe aujourd'hui. Et ceci a, bon, c'est pas la peine de rappeler toute l'histoire, mais ceci a fini par déboucher sur cette mondialisation financière, ce capitalisme financier effréné avec toutes ses dérives. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons, comme en 1929, face à un blocage, face à une espèce d'implosion du système, une implosion du système qui oblige, qui a toutes les conséquences que l'on connaît.
Alors, par contre, vous précisez bien à votre page 39 de votre ouvrage, il n'y a donc pas lieu de faire l'amalgame entre économie de marché et capitalisme. On peut ne pas approuver certains des caractères du capitalisme et reconnaître à l'économie de marché d'être à ce jour le meilleur mécanisme pour faire fonctionner l'économie. Le concept d'économie sociale de marché, comme on le verra, permet de lever cette contradiction. Donc vous, votre thèse centrale, c'est qu'on peut créer une autre forme d'économie de marché qui est celle régulée d'une certaine façon, et qui aurait une connotation beaucoup plus sociale.
Mais c'est à dire que
je crois qu'on peut faire beaucoup plus en France que ce qu'on fait aujourd'hui.
Non, mais je crois que c'est
peut-être faire mieux, mais plus.
Oui, mais c'est assez fondamental. C'est à dire que je crois que on peut retenir de l'économie de marché son système d'équilibre entre l'offre et la demande sur des marchés qui permet d'ajuster à la fois les quantités et les prix. Aucun autre système, pour le moment,
le fait mieux.
Il n'a pas de concurrent pour ça. L'économie de marché n'a pas de concurrent pour cela. Mais c'est ce que je mets en question, c'est le paradigme, si vous voulez, qui est derrière le fonctionnement actuel de l'économie de marché par le capitalisme, c'est-à-dire ce paradigme que je résume en disant que c'est l'enrichissement individuel par l'accumulation du profit qui, selon des principes théoriques ou des explications théoriques qui sont fausses, doit conduire à l'optimum collectif. Et ça, je pense que ça fait la preuve que c'était faux, et ça surtout aboutit à ce que l'on a appelé la cupidité, à ce que l'on a appelé l'enrichissement extrême de certaines catégories de population et l'appauvrissement extrême d'autres. Donc je pense qu'il est temps de revenir à ce que j'appellerais une philosophie du partage et de la solidarité, qui n'empêcherait pas l'économie de marché de fonctionner. C'est ça que je veux dire.
Oui, ça, c'est une grande différence mais avec les thèses anti-capitalistes. Anticapitaliste primaire, comme on en écoute certains.
Voilà, alors est-ce que ça s'appellerait capitalisme ou autre chose? Je n'en sais rien. Alors c'est là où Immanuel Wallerstein dit que ça ne s'appellera plus capitalisme, on va rentrer dans un autre cycle historique de plusieurs siècles, comme on a connu le capitalisme en plusieurs siècles, on va connaître autre chose. Donc moi, je ne vais pas me prononcer sur le fait que ça s'appellera capitalisme ou pas capitalisme,
oui, ça,
mais ça devrait être un système, disons, plus juste, selon le point de vue actuellement.
Alors, plus juste, comment arriver à cette justice? Et on prétend, comme le dit Bernard Heisenberg, que le premier mot qu'a prononcé le sapiens sapiens, après manger, oui, boire, vous y étiez, bon, c'était justice.
Oui.
Alors, c'est bien d'avoir un objectif de justice, mais on y arrive comment? Déjà, au niveau de l'ordre économique et financier mondial, on voit bien qu'émergent des points d'équilibre entre l'hyperpuissance américaine et puis les pôles montants. L'Europe en sera peut-être un, la Chine, l'Inde, etc. Les pays émergents, grosso modo. C'est un point. Mais d'ailleurs, je vais vous écouter là-dessus. Mais ensuite, dans les pays qu'on disait jadis développés, comment aller vers plus de justice? Par la redistribution en France, vous croyez qu'on n'atteint pas des niveaux largement suffisants ou leur, une autre forme de redistribution? Comment vous voyez les choses?
Bon, je pense qu'il y a de plusieurs manières. Je dirais l'organisation des entreprises, la redistribution et peut-être aussi la régulation des échanges mondiaux. Je dirais que ce sont les trois points importants que je vais développer, si vous voulez. L'organisation de l'entreprise, je pense qu'il faut revenir à des idées, des propositions associant les travailleurs avec la direction des entreprises et pourquoi pas les actionnaires. Mais
enfin, on va dire les salariés, parce que les travailleurs...
Les salariés, disons. Les
salariés ne sont pas toujours travailleurs. Mais enfin bon,
beaucoup le
sont.
Les salariés, les managers et les actionnaires, de façon à, si vous voulez... arriver à une sorte de co-décision, en quelque sorte. Ça a déjà été...
Non, c'est la gestion participative, on va dire.
Oui, participative. C'est-à-dire que je trouve que le participatif est un vocable un petit peu... qui a été un peu discrédité parce qu'il n'a pas abouti à grand-chose. Mais, par exemple, ce n'est pas du communisme, mais dans l'ex-Yougoslavie, il y avait un système qui était le système de... Enfin, c'était de l'autogestion et surtout de la co-décision, d'ailleurs. On peut dire de la co-décision. Et ce n'est pas un hasard si, de tous les pays d'Europe centrale orientale qui ont intégré l'Union européenne, celui qui a le mieux réussi, c'est la Slovénie. La Slovénie qui était partie de la Yougoslavie et qui a poursuivi un peu ce système de la codécision.
Donc une forme de gouvernance un petit peu particulière.
Non, je crois qu'il faut inventer une autre gouvernance de l'entreprise. Ça, c'est ça le premier point. Alors, on peut s'inspirer de beaucoup, si vous voulez, d'expériences. Enfin, non, je ne l'ai pas cité dans le livre, mais enfin, on peut réfléchir. Il y a ce qu'on appelle l'économie solidaire. Mais là encore, l'économie solidaire est un vocable qui a été un peu discrédité par la faiblesse de son application ou même les dérives de son application. C'est pour ça que je n'aime pas trop l'employer. Il y a tous les systèmes, si vous voulez, de fonctionnement. Enfin, j'en prends un, ça peut apparaître effectivement peut-être un peu étranger. Est vraiment limité, mais il y a les systèmes monastiques, si vous voulez, où il y a une sorte de co-décision, d'autogestion, sous un chef, bien sûr. Mais enfin, donc, je pense que là, l'imagination devrait pourvoir à cela. Ça, c'est le premier point. Redistribution. Alors, il y a un phénomène donc, qui est apparu depuis une dizaine d'années, c'est la campagne contre l'impôt. La campagne contre l'impôt. À cause de l'impératif de compétitivité, vous le savez, les pays de l'Europe centrale et orientale qui devaient intégrer l'Union européenne ont joué la concurrence à qui baisserait le plus leurs impôts pour faire venir les investisseurs étrangers et pour développer l'économie. Je crois que c'est une profonde erreur et qu'il faut réhabiliter l'impôt. Je ne dis pas qu'il faut l'augmenter, mais il faut au moins déjà ne pas le baisser. L'augmenter dans les pays qui l'ont beaucoup trop baissé, qui sont ridicules, comme l'Irlande, comme l'Islande, je crois. Et les Pays-Baltes, d'ailleurs, qui le payent très, très amèrement aujourd'hui. Il faut réhabiliter l'idée de politique de redistribution. Une politique de redistribution est absolument indispensable pour rebâtir le système, si j'ose dire. Et puis, le troisième point, c'est...
Mais est-ce que la France n'est pas alors un modèle parfait?
Ben, la France est bien placée dans ce domaine. Ouais, parce que la France n'a pas des... Enfin, elle a un peu détricoté, comme on l'a dit, son système. Elle le fait petit à petit. Mais enfin, pour le moment, les dégâts ne sont pas trop importants. Mais les pays nordiques ont gardé leur système tout de même. Eux aussi, ils ont dû faire face aux assauts libéraux. Mais enfin, dans les pays nordiques,
les amortisseurs sociaux sont là encore dans ce genre de modèle.
Tout à fait, tout à fait.
Et le modèle social français en est un.
Oui, et c'est pour ça d'ailleurs que, apparemment, la France semble moins souffrir que d'autres de la crise actuellement. Alors, après, on verra.
À court terme, du moins.
À court terme, ouais. À court terme. Après, on verra. Et alors, le troisième point qui est aussi important, c'est revenir sur le mythe du libre-échange généralisé et le mythe selon lequel ce libre-échange aurait profité à tous. À tous, parce que, bon, vous savez qu'on l'a écrit beaucoup, certains l'ont écrit beaucoup, grâce au libre-échange, la pauvreté a reculé, grâce au libre-échange, les pays en voie de développement se sont développés. Alors, on cite la Chine, qui est quand même un cas très, très particulier. Il faudrait citer plutôt l'Afrique. Or, ce libre-échange non régulé, généralisé, il faut dire aussi qu'il a abouti au creusement, à un creusement inacceptable des inégalités. Si vous voulez, bon, il y a beaucoup à dire sur les délocalisations, mais il est certain que ce qui est inacceptable, c'est de délocaliser au détriment, si vous voulez, d'un certain système social, d'un certain système de protection sociale. Donc, je pense qu'on va y arriver forcément. C'est-à-dire que je crois que le libre-échange généralisé, c'est fini maintenant. Je préférerais parler d'un libre-échange... Je pense que le monde risque de se développer, de se diviser en un certain nombre de blocs continentaux au sein desquels il y aura libre-échange, c'est normal. Qui est libre-échange au sein de l'Union européenne, c'est normal. Encore faudrait-il que tous les pays...
Mais vous voulez dire que les échanges inter-blocs seront moins forts?
Oui. Et vous croyez pas à la condition qui est quand même, par exemple pour l'Europe, quand même un certain fédéralisme fiscal, parafiscal, etc., ce qui n'est pas le cas actuellement. Mais par contre, entre, par exemple, l'Europe et la Chine, où les systèmes sociaux sont totalement différents, il est, à mon avis, assez aberrant qu'il y ait libre-échange total. Ceci devrait être régulé, parce qu'il n'y a pas de raison que l'Europe, pour maintenir un certain nombre d'industries ou une certaine activité, soit obligée de défaire son système social parce que les Chinois n'en ont pas.
Oui, c'est vrai que si la question se résume à cet aspect, c'est vrai que la Chine... la classe dirigeante chinoise a privilégié les exportations à son marché intérieur et au niveau de vie de ces gens. Cela étant, elle reste un grand compétiteur international et les autres blocs sont aussi soumis à la logique de l'échange. Il faut pouvoir échanger ce que l'on produit pour pouvoir soi-même ensuite acheter ce que produisent les autres. Donc, est-ce qu'il n'y a pas là une limite, je dirais quasiment physique, puisque chaque région, chaque bloc ne produit pas les mêmes, n'a pas une spécialisation identique. Je vois bien, c'est effectivement une réflexion qui se fait jour en disant, bon, évitons les dépenses d'énergie et tout azimut dans les échanges et les suréchanges et qui font que la base physique s'éloigne de plus en plus des échanges commerciaux et encore pire, des échanges financiers, mais il faudra probablement au moins du temps alors.
Oui, non, mais si vous voulez, pour moi, ce que je viens de dire ne signifie pas la disparition évidemment des échanges entre les blocs.
Oui.
Les échanges entre les blocs resteront importants, mais simplement ils feront quand même l'objet d'une régulation, si vous voulez. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une OMC, donc une Organisation mondiale du commerce, il y aura, comme le dit d'ailleurs un autre économiste qui s'appelle Jean-Luc Réau, il devrait y avoir une Organisation mondiale de la concurrence. C'est-à-dire que c'est ce qu'on peut appeler la concurrence non faussée, parce que la concurrence, elle est très faussée actuellement, même au sein de l'Union européenne d'ailleurs. Il faudrait qu'il y ait une concurrence juste, une concurrence qui tienne compte, si vous voulez, des différences de système et qui corrige un peu ces différences de système.
Oui, c'est ce qu'on a appelé dans un autre temps la dégradation du terme de l'échange. Ça revient à la même chose. Enfin, parfait. Donc, on a bien compris que vous dites, un, c'est une crise systémique. Deux, qu'il s'agit plus d'une crise du capitalisme que de l'économie de marché.
Tout à fait. Hein,
on est tout à fait d'accord. Et alors, trois, on en vient là. Comment voyez-vous l'avenir? C'est-à-dire, bon, parfait, on a posé le diagnostic, mais on s'en sort comment?
Alors là, évidemment, je suis...
Non, enfin, en tout cas, quelle est votre thèse, au moins? Parce que j'imagine, vous n'avez pas de boule de cristal. Mais en tout cas, les voies que vous privilégiez, c'est aller vers plus de justice, des échanges internationaux qui soient régulés, un peu moins débridés, en quelque sorte. Et autre médication...
j'en ai cité une, quand même. Ouais. La réforme de la gouvernance et du système de fonctionnement des entreprises.
D'accord.
Oui. Et puis alors, disons aussi, par exemple, si on prend le cas de l'Union européenne, mais il faudrait aussi que ça s'étende au monde entier, une certaine harmonisation des systèmes fiscaux et parafiscaux.
Donc alors, à l'issue de cette analyse, qui est très décoiffante, parce qu'elle remet en cause beaucoup de choses, qui d'ailleurs est assez nouvelle dans le sens que la plupart des critiques qui se font jour lorsqu'on sort d'une crise tendent plutôt à, on va dire, légèrement modifier l'existant, mais sans toucher au dogme.
Tout à fait.
Vous-même, vous ne tombez pas dans la simplification, on va dire, de l'anticapitalisme primaire, mais vous prôner une société plus juste, un choix de société différent, où la justice... Alors, à l'issue de ce processus, qui durera, j'imagine, quelques années, comment voyez-vous la société à la fois, peut-être un peu utopique, mais enfin, en tout cas, telle que vous l'espérez de demain?
La société que j'espère, ça serait une société, effectivement, plus juste, où il y ait moins d'injustice, où il y ait moins de pauvreté. Ça, c'est évident, parce que si on va jusqu'au bout, ça veut dire aussi qu'on ne devrait pas accepter des phénomènes qu'on accepte aujourd'hui en ce qui concerne le logement, en ce qui concerne la pauvreté d'un certain nombre d'individus, etc. Mais ce que je voulais dire, surtout,
allez-y,
parce que je ne sais pas comment on y arrivera et au bout de combien de temps on y arrivera, je pense qu'il faut viser à y arriver. Mais
c'est l'objectif.
Mais ça risque de se traduire par des gouvernements, des à-coups et des conflits. C'est ça que je vois. À court terme, c'est ça que je vois.
Des tensions.
À-coups, conflits. D'abord parce que la mondialisation telle qu'on l'a conçue jusqu'ici, et qui était censée se poursuivre toujours davantage, pour moi, c'est terminé. Alors là, je reprends ce que disait Nicolas Vavret, son vocabulaire, c'est derrière nous. Je pense qu'on va vers une mondialisation plus parcellaire, si vous voulez. On revient à cette idée des blocs continentaux. Je pense qu'on va forcément vers ça, tôt ou tard. Alors, il faut éviter que ça soit du protectionnisme.
Bien sûr. Et ça, c'est un
risque.
Ce qu'il
faudrait, c'est que ça se fasse progressivement, harmonieusement, par une régulation des échanges entre les blocs. Ça, je crois que c'est le premier point. Un deuxième point important, c'est que je pense que on va tôt ou tard également, le système monétaire international va changer et que la position du dollar comme monnaie de réserve quasi unique n'est plus tenable à terme. Alors, est-ce que ça sera très rapidement? Je vous disais ça d'ailleurs une fois.
Oui.
Est-ce que ça sera d'ici 6 mois, 1 an, parce que les Chinois vont lâcher les États-Unis, ou est-ce que ça sera plus tard? Mais je pense qu'il faut accepter et envisager d'aller vers un système multipolaire où il y aurait plusieurs monnaies de réserve. Alors, je ne sais pas comment, en ressortant les DTS ou en élargissant. Donc, on va vers une mondialisation plus fragmentée au niveau des monnaies de réserve, au niveau des échanges. Ça risque évidemment de se produire, d'entraîner un certain nombre de conflits et d'à-coups. Mais je crois que c'est à peu près inévitable.
Et je terminerai en vous citant, d'ailleurs, vous pouvez peut-être faire un petit développement sur ce sujet, car c'est un mot que l'on ne voit pas souvent. Vous nous parlez des conséquences de l'anthropocène, qui est donc les conséquences du rôle géophysique de l'homme sur son environnement. Alors, donc, dans ce domaine-là, vous voyez aussi une lucidité apparaître. Parce que l'environnement, à côté, on a parlé de l'économie, de la finance, mais il y a aussi la morale. Et donc, l'environnement, c'est aussi une des responsabilités de l'homme, la classe dirigeante. Et comment vous voyez ce dernier point?
Oui, tout à fait. Vous avez raison d'ailleurs de me relancer sur ce point, parce que je l'ai un peu développé dans mon livre, pas
tout
beaucoup.
Oui.
Mais c'est un point pour moi fondamental, parce que je dirais, il me semble que c'est le grand absent encore, malgré le Grenelle de l'environnement, malgré le fait qu'Obama soit arrivé à la place de George Bush. Je suis très inquiet personnellement quant à l'avenir de notre monde sur le plan de l'environnement et notamment. Donc, si l'on ne prend pas ce problème à bras le corps, je pense effectivement alors là que les lendemains risquent d'être extrêmement difficiles. C'est même la survie de la planète qui est en question. Et ça, je le pense fondamentalement. Et malgré les belles paroles qu'on entend à droite et à gauche, je pense que le monde n'en est pas conscient. Et c'est pour ça d'ailleurs aussi que le libre-échange, si vous voulez généraliser, ne veut pas tenir, parce que ce libre-échange généralisé est beaucoup trop polluant. Et d'ailleurs, dernier point que je voudrais insister, ce libre-échange généralisé, dont on dit qu'il devrait profiter beaucoup aux pays en voie de développement, sur le plan de l'agriculture, ça me paraît faux, parce que jusqu'ici, il a surtout nui au système agricole de ces pays, en détruisant leur système agricole propre et les agricultures vivrières.
Ça, vous avez tout à fait raison. Je pense qu'il y a une prise de conscience qui est en train quand même de se faire jour.
J'espère.
Car c'est un petit peu les mêmes thèses qui sont développées. Et les touristes connaissent bien ça. Quand ils vont dans des pays en voie de développement, on leur dit surtout ne donnez pas de pièces parce que ça les évite. Et à ce moment-là, ils prendront l'habitude de ne pas travailler. C'est un petit peu en synthèse c'est un peu l'image qu'il faut retenir. Écoutez, cher monsieur, je tenais à vous remercier une nouvelle fois pour avoir accepté de prendre sur votre temps pour nous rejoindre sur l'antenne de Canal Académie. Je rappelle que Jean-Pierre Paget a fait paraître chez Autrement Frontières « Penser l'après-crise, tout est à reconstruire ». Vous y retrouvez donc un ouvrage d'une 130 pages pour 15 euros. Vous y trouverez des réflexions qui sont quelquefois un peu décoiffantes, en tout cas décalées par rapport au consensus d'un économiste, dirons-nous, partagé entre le gai désespoir d'André Comte-Sponville et le malheureux malheur de Boris Cyrulnik. En tout cas, merci à vous et bravo pour cette remarquable parution.
Je vous remercie.